Paris, jeudi 11 avril.
C'est la route, non les racines, qui détermine le voyage entre les deux terres. C'est l'écoute du divers en soi qui est primordiale dans la construction de sa propre identité. Et c'est extrait de Méditerranée, récit du milieu des terres, de Mondeur Kilani.
La carte et le territoire.
Un podcast de Clémence Bayot d'Estivaux. Alban Tamania. Bonjour et bienvenue dans La Carte et le Territoire, le podcast consacré aux acteurs et actrices du monde de la musique et à leur relation au territoire. Aujourd'hui, je reçois Alban Tamania. Bonjour Alban.
Bonjour Clémence.
Merci d'avoir accepté mon invitation dans ce quartier que tu connais, visiblement, on en parlera plus tard. Alban, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, je vais te demander de te présenter et de me raconter ce que tu fais dans la vie.
Alors, je suis flûtiste. Je fais des concerts exclusivement depuis un petit temps maintenant. Comme tout le monde, j'ai donné des cours en parallèle de cette activité créatrice. Depuis un an, je me consacre exclusivement à la scène. Je reviendrai peut-être à la pédagogie par la suite. On verra, j'aime bien me laisser surprendre. Je joue, je suis interprète, mais je suis aussi, maintenant, je crois qu'on peut dire compositrice. J'ai un peu du mal à l'assumer encore, mais voilà.
Et comme tu le sais, l'émission s'appelle La carte et le territoire. Donc pour compléter cette présentation d'émission, je vais te demander de me donner ta ou tes définitions du mot territoire.
Alors, je savais que tu allais me poser cette question.
Elle n'est pas secrète.
C'est ça. Et en même temps, c'était pas forcément plus facile de s'y préparer en amont. Pour moi, je pense le ou les territoires, ce sont des espaces. Et ça peut être des espaces géographiques, mais ça peut être aussi des espaces de rêve ou le territoire de la musique, par exemple. C'est un territoire sur lequel toi et moi, on existe. Et il y a des territoires qu'on partage avec des gens, puis d'autres, j'aime bien imaginer que c'est des sortes de cercles ou d'espaces qui se croisent. Donc toi et moi, on se croise sur la musique et probablement sur le 15e arrondissement ou sur d'autres sujets. Et je crois que quand j'imagine territoire, j'imagine traverser. J'imagine que c'est des endroits où on peut aller. Il y a des endroits où on ne peut pas aller, bien sûr, mais ça définit forcément un espace, je dirais.
C'est marrant parce que quand tu dis traverser, j'entends Méditerranée.
Ça ne m'étonne pas.
Pour des raisons plus ou moins politiques.
Oui, clairement.
Et quelque chose me dit que ça va irriguer cette interview. Une fois n'est pas coutume, je vais peut-être te demander tout de suite en fait, de te saisir des cartes.
Okay.
Parce que je pense qu'on va en avoir besoin pour développer certaines choses de ton parcours. Certains aspects artistiques, pédagogiques et humains, politiques.
Oui, probablement. Tout est politique. Alors, j'ai les cartes. De toute façon, j'ai très envie d'aller sur la Méditerranée, quoi qu'il en soit. Donc, je pense que le mot traverser, il n'est pas là pour rien. Alors, est-ce qu'il y a une carte de la Méditerranée? Ah. Ouais, la voilà. Elle est belle.
Elle est belle. On voit pas bien son sud.
Non, on voit pas bien son sud. Ah, celle-là est un peu plus définie. Fais-moi voir. Est-ce qu'on aurait le pourtour méditerranéen? C'est ça qu'on veut, en fait. Est-ce que 5, c'est la page?
Ouais.
Ouais, c'est ça. Donc, c'est celle-là.
Ouais, donc D3, c'est D3. Ouais, elle est là, quoi.
Ouais.
Ouais, donc t'auras pas mieux que ça.
Ok. Très bien. Donc, la voilà.
C'est aussi politique de rédiger un atlas et de choisir
exactement
certaines coupes et pas d'autres.
Oui, tout à fait. Ça j'ai découvert ça il y a quelques années. Je crois que c'est ce qui me passionne dans les cartes. J'adore les cartes, en fait. Toute forme de cartes. Et récemment, j'ai appris à lire des cartes maritimes, par exemple.
Donc, bien joué.
Oui, je trouve que c'est... Tu déchiffres plein de choses, évidemment, d'informations, mais tu déchiffres aussi le point de vue de la personne qui a décidé, par exemple, de couper la Méditerranée. Voilà. Sur la carte qu'on a, on n'a pas vraiment le sud, on n'a pas tout le bord de l'Afrique du Nord. Donc elle est très européano-centrée.
C'est bizarre, ça n'arrive jamais.
Comment ? Mais ouais, traverser forcément, hein, ça va avec. En fait, ce qui me fascine avec cette mer, c'est qu'elle a... C'est ses côtes, je pense. Et c'est ce qu'elle représente d'échange.
Tu penses à quoi ?
En fait, je suis assez impressionnée parce que ça fait quelques années maintenant que je dis que mon identité, c'est d'être méditerranéenne. J'ai eu du mal, moi je viens de Corse, donc il y a comme une très forte identité corse, il n'y a pas à dire, et quand on vient de Corse, tout le monde le sait, tout le monde te ramène à ça, avec des clichés plus ou moins vrais.
On imite ton accent.
Par exemple. On me demande si mes cousins, ils sont pas loin, et je ne sais pas quoi. Et en arrivant, nous, ce qu'on dit sur le continent, tout de suite, il a fallu que je m'identifie, parce qu'on me disait, bah, alors t'es corse, mais t'es pas française, alors que je viens pas forcément plus d'une famille qui revendique... une Corse indépendante. Donc je dis, ah ben non, je suis française, je parle français, j'ai plein de références françaises. Mais force était de constater qu'il y avait plein de traditions que je n'avais pas non plus. Donc je me sens pas spécialement chez moi à Dijon, ou qu'une ville que j'adore, mais ou à Rennes. J'ai vécu le même choc culturel que quand je suis partie aux Pays-Bas, par exemple. Et très vite, quand il fallait répondre à cette question, j'étais perdue jusqu'à ce que je réalise qu'en fait, j'étais méditerranéenne. Quand je suis en Italie, je me sens chez moi. Pourtant, pour le coup, c'est pas ma langue. Quand je suis en Afrique du Nord, je me sens chez moi. Quand je suis en Croatie, j'ai pas fait tous les pays du bassin méditerranéen encore. Mais on partage la même... certaines traditions similaires, la même façon de communiquer peut-être, de manger...
L'huile d'olive,
les tomates, le soleil. Et en fait, c'est au-delà des frontières politiques, pour le coup. Et alors, il n'y a pas longtemps, j'ai appris un mot, donc ça s'appelle le biome, peut-être que tu connais ce mot, qui est en fait un espace dans lequel un animal donné, par exemple, va circuler. Donc lui ne va pas se soucier des frontières, il va là où il y a de la nourriture pour lui. Donc, tant qu'il mange des petites baies, et s'il y en a, que ce soit d'un côté ou de l'autre des Alpes, il ne va pas réfléchir si c'est l'Italie ou la France, quoi. Donc, ça me plaît bien comme définition d'un territoire pour définir une identité, une origine, on va dire.
Oui, on va peut-être différencier origine,
ouais,
et identité.
Exactement. Donc, moi, j'ai l'impression que je viens de ce bassin méditerranéen. Ce sont mes origines. Et j'aime le fait que ça concerne plusieurs pays. J'ai pas la prétention de dire que je connais la culture italienne ou la culture turque, mais il y a quelque chose dans lequel je me reconnais.
De familier.
Oui. De référentiel qui ne me surprennent pas. Alors que, par exemple, pour revenir à Dijon, même l'architecture, par exemple. J'étais complètement fascinée, comme quand je suis arrivée à Bruxelles, où je me suis dit, mais waouh, c'est tellement loin de ce que je connais.
Et le banc bourguignon aussi.
C'est vrai, mais c'est des choses que j'ai découvertes que je ne connaissais pas du tout.
Moi non plus, moi non plus. Ça, j'avais pas besoin d'être corse pour pas connaître, pour vivre un moment de solitude intense.
Mais oui, on est d'accord. Mais après, par exemple, ça fait partie des choses qu'on intègre parce qu'on l'a vécu une fois ou deux. Et maintenant, ça fait partie de mon répertoire. Ça fait pas partie de mes origines, ça fait pas partie de mon identité, mais ça fait partie de mon répertoire.
Comme une langue que t'apprends.
Exactement.
Ouais. Au début, tu comprends rien, puis après, tu comprends quelques mots, puis après, tu peux t'exprimer sommairement, puis un peu moins, etc. Comprendre des blagues, comprendre de l'argot, mais c'est...
Oui.
C'est sportif. Donc, tu l'as dit, tu viens de Corse. Où exactement ? Pour qu'on parte vraiment du point de départ ?
Alors, le point de départ,
pardon, je resserre, alors qu'on a eu un grand moment poétique sur la Méditerranée. Excuse-moi.
Il n'y a pas de souci. C'est Bastia. Donc, vraiment à la base du Cap Corse. C'est là que j'ai grandi pendant 18 ans. J'ai fait toute mon enfance et toute ma scolarité là-bas.
C'est là que tu as commencé la musique ?
Exactement. Au conservatoire de Bastia, oui. Tout à fait. J'avais 7 ans. Oui, c'est ça.
Dans une famille déjà musicienne?
Alors, j'ai un papa qui était guitariste amateur et qui, entre-temps, est passé plutôt professionnel, en tout cas autodidacte, et qui a un parcours assez rigolo parce que lui, il a fait de la guitare électrique, un peu rock à l'adolescence, parce que c'était cool d'en faire, c'était chouette, ça lui plaisait, et qui a découvert la guitare classique après. Donc il a fait un peu le chemin inverse de ce qu'on connaît de nos amis guitaristes et qui s'est du coup inscrit au conservatoire en tant que jeune adulte du coup, parce qu'il avait passé la majorité et qui a passé à l'époque sa médaille de guitare classique et c'était vraiment... Nous on a grandi avec de la guitare classique, pas du tout avec de la guitare électrique à la maison quoi. Et c'est lui qui nous a inscrit au conservatoire. Et on a joué avec lui beaucoup, on faisait un peu les concerts du Téléthon, les choses comme ça. Je pense que c'est pour ça que j'ai continué à faire de la musique, parce que honnêtement ça me... Travailler c'était pas quelque chose qui me plaisait beaucoup quand j'étais enfant.
Ah ouais ?
Ouais, ni l'école, ni la musique, le concept même de travail n'était pas dans mon processus.
Parce que pour le coup la musique, ouais, c'était un travail, c'était...
Ouais.
Il y avait pas de dimension...
Mais sauf quand on jouait pour des événements, mais le cours de flûte, c'était du travail, ouais, clairement.
Ah ouais, c'était pas marrant.
Non.
Puis il y avait ce qu'on appelait solfège, notre génération, ça s'appelait encore solfège.
Ouais, c'est vrai, ouais.
Ouais, c'était scolaire, en fait.
Ouais, c'était scolaire. Après, du solfège, je garde un souvenir incroyable, parce que j'avais une prof de solfège exceptionnelle, Bernadette Renucci, qui donnait des cours complètement décalés. Et après, en faisant des études de pédagogie, en me renseignant un petit peu sur d'autres pédagogies que le solfège à l'ancienne, etc., en fait, je me suis rendu compte qu'elle était complètement formée pédagogie Freinet, des choses comme ça. Et j'ai toujours adoré le solfège, mais parce qu'il n'y avait qu'elle, et c'était la seule prof que j'avais. Et quand j'ai découvert le solfège après au conservatoire d'Aix-en-Provence, j'ai moins rigolé.
Donc, tu as quand même eu de la chance. Mine de rien, il y a peut-être une personne qui t'a donné le goût du travail, puisque ce qui n'avait pas l'air d'être du travail, mais qui en était forcément.
Ouais, de l'apprentissage en tout cas. Ouais. Je pense que je ne faisais pas la différence entre les deux. Pour moi, le travail, c'était laborieux, puis il fallait un résultat qui n'avait pas d'intérêt pour moi. Dès qu'il y avait un objectif de concert, que ce soit parce qu'on jouait en famille ou après que j'étais un peu plus âgée, j'ai intégré l'orchestre. Alors là, c'était magique, et c'est pour ça que je fais de la musique maintenant. C'est pour jouer avec d'autres. Mais toute seule dans ma chambre à faire des gammes, non, je voyais pas l'intérêt, même si j'aurais pu concevoir que c'est parce que je passais par là que j'aurais accès à des choses qui me plaisent.
Oui, mais ça, quand t'as 10 ans, c'est difficile à comprendre.
Ouais, clairement. Il faut un prof avec de l'imagination, ce que je pense que je n'avais pas forcément, quoi.
Et en tout cas, t'as bien choisi ton instrument pour jouer avec d'autres gens.
Oui, c'est clair. Oui, je ne suis pas pianiste. Oh, ceci dit, les pianistes jouent quand même, mais c'est plus difficile, quoi.
En tout cas, la flûte, c'est vraiment un instrument sociable.
Ah, c'est beau. On ne l'a jamais présenté comme ça, oui. Je prends.
Moi, je trouve. Pour moi, ce qui est beau dans la flûte, c'est sa volubilité, cette manière de flotter au-dessus des instruments harmoniques et rythmiques qui vont la porter.
Moi, c'est ça que j'adorais, c'était d'être au-dessus. C'est horrible, je me dis comme ça, mais j'adore, justement, quand j'étais à l'orchestre, t'es toujours en haut, quoi. Mm. Et ouais, ça me plaisait beaucoup. Est-ce que ta personnalité t'attire vers les instruments, ou est-ce que c'est par la pratique de l'instrument que tu façonnes ta personnalité ?
Oui, oui, c'est un ping-pong. On revient à Bastia ?
Allez, c'est parti.
On revient, donc tu commences la flûte, c'est laborieux. C'est laborieux, il n'y a pas un plaisir fou à aller au conservatoire.
Ouais, en fait, je ne travaillais pas du tout à la maison, mais j'avais développé un peu... du coup, je suis une très très bonne lectrice et je déchiffre hyper bien. Et mon challenge après... Mais du coup, ça me donnait une petite motivation quand même. Je ne peux pas dire que j'aimais bien aller en cours, mais parce que l'objectif, c'était de faire comme si j'avais travaillé 2 heures
la
par jour.
La pire élève. Ta prof n'était pas dupe, c'est impossible.
Et en même temps, avec la flûte, on a quand même tout sous les doigts.
Oui.
Et on n'a qu'une ligne. Il y a un truc où je sais pas, j'ai développé des réflexes et ça m'amusait bien. Ça n'a pas duré. Il y a eu après, quand tu passes en troisième cycle, si tu travailles pas, c'est compliqué, mais. Ouais.
Ouais, ça a duré 8 ans quand même.
Ouais, il faut pas le dire. Après, le conservatoire, c'était un endroit où j'avais mes amis, où c'était un espace de liberté pour moi quand même. Hein. C'était vraiment juste le rapport au cours, le rapport à moi et mon instrument, je pense. Ça a été longtemps la lutte.
Je me pose une question sur le conservatoire de Bastia et justement sur son implantation dans le territoire corse, puisque la Corse a une identité musicale assez forte. Est-ce que toi qui l'as vécu, qui as étudié là-bas, et évidemment il y a 20 voire 30 ans, hein, mais comment est-ce que ça s'articulait? Est-ce que tu avais l'impression que le conservatoire, c'était quelque chose de parachuté du continent qui a imposé certains genres musicaux, ou est-ce qu'au contraire, il y avait moyen, je pense évidemment au chant corse, mais d'étudier, de...
Non, ouais, c'était déconnecté. En fait, le conservatoire, à l'époque où moi j'y étais, parce que ça a quand même bien changé, mais c'était un peu en marge. J'ai un souvenir très fort d'être allée à Paris, je devais être en seconde, je crois, pour acheter une flûte. Parce que jusqu'alors, on louait une flûte Yamaha d'études. Mais bon, comme je faisais des progrès apparemment, et que j'envisageais d'en faire mes études, je suis allée à Paris avec mon père pour acheter une flûte rue de Rome. Et je me rappelle être sortie, je crois qu'on est sortie à la station Europe, si mes souvenirs sont bons. Et il y avait des gens avec des étuis d'instruments, mais partout, forcément. Hein, mais j'étais tétanisée dans cette rue, je me suis dit, mais en fait, il y a autant de musiciens. Enfin, alors qu'en fait, à Bastia, quand j'avais ma flûte avec moi pour aller à l'école, parce que j'avais mon cours juste après, bah, j'étais toute seule. Je pense que par promotion, enfin, on ne parle pas comme ça quand on est au collège et au lycée, mais par tranche d'âge, je sais pas, on était 5 dans mon collège. Et c'est tout. Et j'ai un souvenir en classe de flûte. La classe de flûte, elle était pas, c'était pas très attractif. Moi, je savais pas que tout le monde faisait de la flûte. Pareil, en arrivant à Aix-en-Provence, je me suis dit, mais en fait, c'est un instrument que tout le monde joue. Mais moi, j'étais toute seule. À l'orchestre, on était
Oui.
deux, quoi. Bon, déjà parce qu'il n'y a que deux flûtes dans un orchestre, mais ils prenaient tout le monde. Mais il y avait deux grands élèves et c'est tout, quoi. Donc, non, c'était en marge. La polyphonie, la guitare traditionnelle, c'était à la MJC. Je pense que maintenant ça a changé. Ils ont mis en place les classes CHAM, par exemple. Ce que moi, j'avais pas du tout. Bon, après, c'est pas qu'en Corse, hein, parce que ça a mis du temps à arriver sur tout le territoire, quoi. Mais c'est vrai que la différence avec d'autres espaces, pour en revenir au territoire, c'est qu'en Corse, tu peux pas prendre ta voiture, faire 2 heures de route, avoir une grande ville comme Marseille, Lyon, Paris. Donc, aller voir, je sais pas moi, comment c'est le conservatoire de la grande ville à côté de chez toi. Tu dois forcément traverser la mer. Et comme c'est paradisiaque toute l'année, c'est très cher toute l'année. Donc les déplacements sont compliqués et les échanges aussi, du coup.
Du coup, tu dirais que c'est une jeunesse assez isolée aussi?
Ouais, préservée. Ce qui n'est pas forcément que positif. Parce que t'as pas les codes. J'ai une petite anecdote mignonne. Sans dommage, quand je suis arrivée à Aix, je me suis fait siffler. En Corse, quand on te siffle, c'est qu'on te connaît.
Ah oui, ça veut dire salut.
C'est pour t'appeler de loin, pour pas crier, tu vois. Donc je me retourne et c'était un homme en voiture qui s'arrête et qui m'ouvre la portière. Et donc moi, je monte dans cette voiture parce qu'en fait, j'ai pas les codes. Donc il s'est rien passé parce que très vite j'ai compris qu'il me connaissait pas du tout, que enfin il y avait et je suis sortie de la voiture et tout s'est bien terminé. Mais ça peut être très beau d'être préservé, mais t'as pas les armes après pour partir, quoi, pour aller voir ailleurs.
Et comment t'as atterri à Aix? Qu'est-ce qui a fait qu'il a fallu partir?
Bah parce que je voulais faire de la musique. Et que je pouvais pas rester en Corse, il n'y avait pas moyen de faire plus que ce que j'avais déjà fait sur place. parce que j'avais envie de partir. Je me sentais un peu étouffée. Mes dernières années au lycée, c'était pas la joie. Au moment où tu as envie de découvrir un peu d'autres choses, il n'y a pas trop d'accès culturel diversifié. Il y a plein de choses qui se passent, surtout l'été avec les festivals, mais l'hiver, c'est un peu mort, quoi. Et il y a des gens qui fitent bien là-dedans. J'ai des copines, des copains, ça leur posait aucun problème. Mais moi, bon, la VO, on n'en avait pas. Tu vois, il y avait un cinéma avec 4 salles. C'était compliqué, quoi. Donc, un peu la volonté aussi d'aller voir ailleurs. Et puis, bah, les enfants des années 90, on a grandi avec toutes les séries américaines qui, malgré tout, je pense, ça m'a donné une idée de ce que ça pouvait être d'être un jeune adulte. Je sais pas, je pense à Friends ou tu
Ouais,
vois,
dans une
d'autres.
grande ville.
Exactement. Habiter avec tes amis, enfin, tu vois, je pense à ça. Ça a aidé, on va dire.
Ouais. Donc tu arrives à Aix.
Ouais.
Et qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là?
Oh là là, beaucoup de choses.
Mmh.
J'arrive à Aix, je fais 3 ans dans la classe de Jean-Marc Boissière, qui est très connu dans le monde de la flûte, qui est un prof exceptionnel. Et bah déjà, j'ai ce choc de me dire. J'étais en DEM hein, quand même en Corse quand je pars. Et j'arrive, je crois qu'on était 10 en DEM à Aix. Donc j'étais
Tu
là
refais un
genre.
DEM, tu re-rentres en cycle SP.
C'est ce qu'il me propose. Il me
Ouais.
propose, il me dit c'est forcément 3 ans, soit 2 ans en DEM, soit 1 an et 1 an de perf, soit 1 an en cycle 3 et 2 ans en DEM. Bon, déjà, j'avais pas très envie de recommencer mon DEM, je l'avais un peu en travers de la gorge. J'avais ma petite fierté. Comme j'ai pas du tout été capable de déchiffrer le morceau. Le concours d'entrée du DEM, j'ai ravalé ma fierté
Ouais.
et je me suis présentée en cycle 3. Et pour la petite anecdote, j'ai quand même refait un DEM à Rueil, donc
Oui,
après de
alors qu'on est
toute
censé n'en
façon.
passer qu'un seul.
Voilà, c'est
C'est...
ça. Ouais, ça, c'est encore les.
Oui, c'est un aveu du fait qu'on n'arrive pas à lisser les niveaux,
Bien
mais
sûr.
pour des raisons notamment extrêmement territorialisées.
Bien sûr.
On n'a pas les mêmes populations, on ne s'adresse pas aux mêmes gens, on n'a pas les mêmes équipes, on n'a pas les mêmes équipements.
On n'a pas les mêmes attentes.
Voilà.
Je suis rentrée en DEM en Corse. Je serais jamais rentrée en DEM avec ce que j'ai fait en Corse, ben, à Aix ou à Rueil. C'était des belles années à Aix. C'était chouette. Je suis contente d'être passée par Aix avant d'arriver à Paris, en région parisienne, que je trouvais déjà une grande ville en arrivant. J'avais déjà eu le choc de. Et puis, tu vois, il y avait. Enfin, je ne sais pas si ça aurait changé quelque chose, mais il n'y avait pas de smartphone. Je me rappelle le premier dimanche, je me dis je vais trouver le marché. Il n'y avait aucun moyen, j'avais pas internet chez moi, j'avais pas d'ordinateur, il n'y avait aucun moyen que je sache où est le marché dans la ville d'Aix-en-Provence. Donc bah, tu marches et tu cherches, tu vois des gens avec des sacs, tu dis ah, ça doit être par là. Donc tu développes d'autres les moyens d'avant internet, quoi. Mais.
Qu'on a encore parfois quand on est sur un autre continent et qu'on n'a pas l'usage de notre smartphone, qu'il faut
Exactement.
aussi demander à des gens.
Et en même temps, du coup, c'était bien de faire ça à Aix et pas à Paris tout de
Oui.
suite après la Corse, tu vois. J'étais contente de cette étape transitoire qui m'a permis d'obtenir un peu les codes aussi musicaux, tu vois, ce qu'on attendait de moi. Et là, par contre, j'ai bossé. Là, je suis passée de 0 heure de flûte par semaine à 8 heures par jour.
Eh
De
bien.
manière. Ouais, ça, c'était très impressionnant.
Et organisée et méthodique, t'arrivais?
Je pense que je travaillais pas parce que je voyais pas l'intérêt. Et que d'un coup, j'ai vu l'intérêt. Et j'ai compris ce qu'il fallait rattraper aussi.
Oui, t'as vu où était la barre en fait.
Ouais, exactement. J'ai beaucoup pleuré.
Oui.
Et j'ai beaucoup travaillé. Et j'ai beaucoup, beaucoup progressé.
Et tu t'es pas fait mal? T'as réussi à rester présente dans ton corps? Parce que
Physiquement, tu
ouais.
veux dire? Ouais. J'ai pas le souvenir. Mais je pense que je m'écoutais pas beaucoup au niveau de mon corps à cette époque-là. J'étais encore jeune. Donc peut-être j'ai eu des douleurs et je les ai pas prises en compte. Mais j'ai pas de douleurs aujourd'hui et j'ai pas de séquelles. Donc probablement que j'y suis pas allée si fort que ça. Enfin, ou en tout cas que mon corps a encaissé, quoi. Mais j'ai dû avoir des douleurs dont je me rappelle pas, tu vois. Des choses où je faisais, bon, ouais, on va dire que ça n'existe pas.
Et pour toi, Aix, c'est méditerranéen encore, avec tes lunettes à toi.
Depuis que je suis partie plus loin, oui. En arrivant de la Corse, pas du tout.
À cause du paysage?
Oui. En grandissant à Bastia, le soleil se lève dans la mer et se couche assez tôt. Enfin, il ne fait pas nuit, mais je veux dire, il disparaît derrière les montagnes. Donc vers 16h, il n'y a plus de soleil direct. À Aix, c'est plat. Donc j'ai découvert les après-midi, surtout au printemps où les journées rallongent, etc., de soleil rasant, d'une luminosité incroyable, où d'un coup tu comprends les impressionnistes, par exemple, tu vois. Mais ça, on l'a pas du tout. Enfin, si tu grandis à Ajaccio où c'est l'inverse, tu as les fins de journée, mais tu as pas les débuts. Enfin voilà, bon bref. En tout cas, j'associe plus la Provence à la Méditerranée depuis que je suis allée un peu plus loin. Mais au départ, pas.
Oui, au départ, c'était le continent.
Oui, oui. Et Bastia est quand même une ville qui ressemble beaucoup plutôt à des villes italiennes, des petits villages italiens. Et la Provence a sa propre identité. Donc, je faisais pas le lien. Puis tout était très grand pour moi. L'arrivée à la fac, il y avait tout ça qui était très... auquel t'as pas accès quand t'es à Bastia. Donc je pense que j'ai pas fait de lien direct, non.
C'était très urbanisé, très métropolisé. J'invente un mot, mais...
Ouais, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Ce qui, en plus, avec le recul, est complètement fou, parce que Aix, c'est tout piéton, c'est mignon. Enfin, maintenant, comme justement mon regard s'est élargi et que j'ai vu d'autres choses, je peux comprendre les similitudes. Et je peux associer Aix à la Méditerranée, mais clairement pas quand je suis arrivée. Rien que le fait qu'il n'y ait pas la mer, elle n'est pas très loin, mais elle n'est pas là, quoi.
Et artistiquement, à cette époque-là, tu te destines à être interprète de musique classique?
Je partais plus pour faire la fac.
Ah oui, d'accord.
Ouais. Mais j'ai rencontré Jean-Marc. Et là, je me suis dit, mais la flûte, c'est génial. En fait, la flûte, c'est un instrument exceptionnel. Et j'ai toujours pensé que je ferais de la musique, mais j'ai toujours pensé que je changerais d'instrument. Ça, c'est assez particulier. Et en fait, je crois que j'ai découvert la flûte à 18 ans dans cette classe-là. Et c'est lui qui a fait la bifurcation. Je me suis dit, bah non, en fait, je ne vais pas faire la fac. J'ai fait la fac pour avoir un statut étudiant, j'ai eu ma licence, parce qu'à l'époque, le DEM ne donnait rien.
En musicologie,
ouais. Ça m'a permis aussi d'avoir des potes et puis de voir d'autres choses, de faire un peu de culture générale, ça fait pas de mal, quoi. Et je pense que je me destinais plus à être prof à ce moment-là.
De flûte ou de musique?
Non, de flûte, ouais. Du coup. Je pense que j'osais pas dire que je voulais être interprète ou que je voulais être dans un orchestre. Mon prof, ça passe toujours un peu mieux, peut-être. Je sais pas. Peut-être que je me posais pas trop la question. Je bossais ma flûte, il fallait que ça marche. Et...
C'était loin d'être professionnelle, de toute manière, parce que t'avais 18 ans, 19
ouais,
ans.
Ouais, c'est ça, ouais. Puis il y avait pas trop... C'est vraiment en arrivant à Paris que j'ai essayé, enfin toute seule, entre guillemets, avec mes petits bras, je veux dire, de faire des concerts, de trouver des petits endroits où jouer, de monter des projets... mais oui, avant, du coup, de mes 18 à mes 21 ans, quoi, où j'étais étudiante, c'était chouette, hein, la vie était belle.
Et donc, tu repasses un DEM au CRR d'Aix.
Ouais.
Et après, c'est fini.
Et après, c'est fini, ouais.
Donc, il faut faire autre chose, et donc, tu vas à Paris.
Ouais, exactement. Donc, je tente le concours d'entrée à Rueil, que j'ai. Donc, je galère pas trop, quoi. J'essaye pas plusieurs conservatoires, mais à l'époque, je me rends pas compte que ça peut être dur. Donc je débarque à Rueil et rebelote pour 3 ans, où j'ai fait du coup un DEM et un PERF cette fois-ci. Ou ça s'appelait peut-être pas PERF, je sais plus, Excellence ou.
Je crois que ça s'appelait Excellence. Ouais. Je crois qu'il y avait Excellence et Perfectionnement.
Et PERF après. Alors, j'ai fait Excellence, du coup. Et là, c'est encore une autre. J'ai adoré. Je pense que Aix m'a permis de partir de Corse. Mais Paris m'a découverte. À Paris, j'étais. D'abord, j'étais assez loin de ma famille. Pour la première fois, j'étais toute seule.
Et t'habitais à Paris.
J'habitais à Paris, ouais.
T'habitais à Paris et tu faisais les allers-retours en RER A jusqu'à Rueil-Malmaison.
Exactement. Où tu apprends que si tu le prends à 8h02, il y a personne. Et si tu le prends à 8h04, tu peux c'est pas t'asseoir. Donc, ouais, j'habitais Paris. Et là, je pouvais plus rentrer à toutes les vacances ou un petit week-end comme ça. Donc, je rentrais à Noël et l'été. Et puis, Paris, c'est génial. Tu peux tout faire en métro. J'adore le métro parisien, par exemple. C'est un moyen de couvrir le territoire qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Il est excellent. Le réseau de transport à Paris est incroyable, quoi.
Pour Paris intramuros, pour l'instant.
Oui.
Mais c'est en train de changer, mais...
C'est vrai.
Mais oui, c'est vrai.
Et tu peux un peu, à toute heure du jour et de la nuit, rejoindre des potes, aller au cinéma, enfin... Pour revenir à la Corse, par exemple, si tu n'as pas ton permis de voiture, ce que tu n'as pas avant tes 18 ans, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas te déplacer. Tu es forcément tributaire de quelqu'un, donc souvent tes parents, qui vont t'amener, venir te chercher. Là, c'était la liberté. C'était la liberté totale.
Est-ce que tu as eu ton permis le jour de tes 18 ans ?
Non. Je l'ai passé... je l'ai passé un peu en express, quand je l'ai passé en Corse, et des vacances où je rentrais, je sais plus, peut-être, ouais, 2 ans après, je devais avoir 20 ans,
je pense. Tu t'es pas dépêché, quoi.
Non, parce qu'à Aix, j'en avais pas l'utilité, donc oui, ça s'est pas présenté, mais je me suis quand même dit, il faut le passer vite, pour que ça soit, parce que si je dois le passer au moment où j'en ai besoin, ça va être compliqué, quoi.
Donc t'es fan du métro, pardon, je t'ai coupé.
Non, je t'en prie. Je suis fan, enfin fan, je suis pas fan de la voiture spécifiquement, mais je suis fan des moyens de locomotion qui nous permettent de nous déplacer, ouais.
Ah ouais, de manière générale.
Ah ouais, j'adore.
Donc le train aussi, t'es fan?
C'est peut-être mon moins préf.
Il y en a plein d'autres, hein. Avion, bateau, vélo.
Ouais, j'adore le bateau. J'adore faire du bateau. J'adore le temps du bateau qui est plus lent. J'adore être sur la mer, donc voilà. J'adore l'avion. Bon, voilà. C'est pas génial. Je trouve ça incroyable quand on puisse faire 8 heures d'avion et être sur le continent américain. Ça me surexcite de savoir que c'est possible, quoi. J'adore le vélo. J'ai beaucoup fait de vélo quand j'étais en Belgique et aux Pays-Bas. C'était vraiment...
Forcément.
Ouais. C'est plus dur depuis que je suis à Marseille, où je t'avoue que la conduite des Marseillais me fait un peu peur quant à ma vie, tu vois. Et c'est en train un peu de se mettre en place, mais ça bouge lentement.
Oui, bah, puis la ville n'est pas faite pareil.
Ah non, il faut un vélo électrique. Hein.
Voilà, on spoil.
Ou des bonnes cuisses. C'est ça.
Je voulais juste revenir à Rueil. Encore une fois... Artistiquement, qu'est-ce qui se déclenche à ce moment-là? Quelle est l'influence de la ville de Paris sur ta pratique et sur ta vie en général, mais on peut centrer sur la musique?
Je pense que je m'installe dans une sorte de tunnel de travail et d'exigence et aussi d'avoir l'impression que c'est jamais assez bien. C'est assez dur dans les études qu'on fait, je trouve, parce que c'est pas tout le monde, hein, mais c'est beaucoup par la négative. Mais je découvre un peu plus ma personnalité, je découvre un peu plus qui je suis, et ça se traduit dans mon son, ça se traduit dans ma façon d'être avec ma flûte. Je pense que je me suis épuisée au travail, et aussi parce qu'en arrivant à Paris, j'ai 2 sœurs et 1 frère, et je suis l'aînée. On est assez rapprochés avec mes sœurs, donc il y avait les autres qui arrivaient pour faire leurs études aussi. Donc en arrivant à Paris, il a fallu que je travaille pour payer mes études. Donc c'était tous les étés serveuse en Corse, en pleine saison, ce qui est épuisant. Mais c'était aussi ou du babysitting, ou de la garde d'enfants en nourrisson, ou des cours, après des journées de travail... Donc j'ai un souvenir comme ça de tu te lèves très tôt, j'allais bosser à Rueil, à 16h j'arrêtais de bosser, j'allais faire du babysitting pendant 3h, je rentrais chez moi, je faisais 2 courses, je mangeais, je dormais et rebelote le lendemain. Et en même temps, Donc ça, c'est si je regarde avec un certain prisme. Et en même temps, de l'autre côté, je me vois en train de m'épanouir, de trouver ma voix au sens comme un peu les chanteurs, et donc de trouver mon son de flûte. Et puis, je sais pas, il faut aussi peut-être se regarder avec un peu de bienveillance et de tolérance. Je ne pouvais pas faire autrement, je pense. Et j'ai adoré vivre à Paris. Si je regarde un peu ce tunnel, je me dis, mais pff, comment t'as pu supporter ça pendant autant d'années ?
Bah, t'avais 20 ans.
Ouais,
on n'a pas la même énergie, je pense.
Oui, c'est vrai.
Bah, en même temps, oui, c'est des années où on parlait pas trop de santé mentale. C'était pas... Enfin, moi, j'ai pas eu l'impression qu'on en parlait quand on était...
Mais ni même d'écouter son corps.
Ouais.
Après, j'avais des potes du conservatoire qui prenaient du temps pour eux. Non, cet après-midi, je vais me balader dans un parc. Je me disais, mais... Moi, si je fais ça, je vais rater mon année. Ou je sais pas de quoi j'avais peur, mais... Je culpabilisais de pas bosser, ouais, clairement.
C'est des années où tu te présentais à l'un des deux CNSM ?
Non, parce que j'ai tout de suite été trop âgée. Parce qu'en flûte, à Paris, c'est 21 ans. Et j'avais déjà 21 ans. Lyon, c'est 23. Mais j'avais pas trop le niveau. Je les ai jamais passés, comme ça, j'ai jamais eu à les rater. Je crois que c'était ça ma philosophie à cette époque-là.
Mais du coup, t'as fait un pôle après ?
Alors j'ai fait un an, j'ai essayé de passer les entrées dans les pôles sup que j'ai pas eu, mais j'ai été prise à Aulnay-sous-Bois, donc j'ai fait un an encore à Aulnay-sous-Bois en région parisienne, j'ai fait 3 ans au pôle sup de Dijon, mais j'habitais encore Paris.
Oui, parce qu'à l'époque, le pôle sup de Dijon, tu pouvais avoir cours avec tu voulais dans
exactement.
Un autre CRR.
Donc moi j'étais rentrée à Aulnay, c'était Patrick Gallois, donc ça c'était chouette parce que à Rueil, c'était quand même assez intense et j'avais pas vraiment confiance en moi. C'était assez compliqué. Mais en rentrant chez Patrick Gallois, ça m'a un peu redoré. Il a toujours adoré ce que je faisais. Enfin, les cours étaient, il était vraiment un peu excentrique, un peu très drôle. Tout était toujours très. Où je ratais un cours, il me disait ah bah c'est des cons. Et il cherchait pas à savoir si j'avais bien joué, si, dans quel état j'étais. Enfin, il analysait pas du tout. Il disait bah pff, n'importe quoi, ils ont pas su entendre. Et je me dis ah waouh, ok. Donc j'ai arrêté l'autoflagellation avec Patrick Gallois. Et je m'inscris à Dijon exprès pour rester avec lui. Et l'année où je rentre à Dijon, ils changent de politique. Et ils disent bah non, maintenant ça va être avec les profs du conservatoire. Mais j'ai découvert Claire Louvagie qui était très bien. Puis j'étais déjà un peu plus âgée. Et j'avais plus envie de ce rapport prof-élève que du coup Patrick n'avait pas du tout. Et du coup, elle était tout à fait d'accord avec ça. J'habitais à Paris, j'enseignais à Paris, j'avais mes concerts à Paris. Et puis 2 fois par semaine, j'allais à Dijon pour la pédagogie, quoi.
Oui, parce que tu as passé un DE.
J'ai passé un DE et un DNSPM.
Oui.
Mais j'avais déjà ma licence de musicologie. C'est pour ça que j'ai pu...
Ça t'a allégé un petit peu le parcours.
Exactement.
Et la pédagogie, on peut faire un petit focus dessus, sur ton rapport à l'enseignement ?
Avec plaisir. Qu'est-ce que tu veux savoir ?
Ce que t'en pensais à l'origine, comment tu l'as vécu, ce que t'en penses maintenant ?
Ok. Je crois que c'était un impensé au départ, parce que je serais prof. Enfin, point quoi. Donc, je prends ces cours de pédagogie. Avec un mec exceptionnel, on avait un intervenant à Dijon, Xavier Dubochène, je crois que c'était son nom, ça doit être toujours encore son nom maintenant. Et c'est lui qui m'a fait réaliser, qui m'a fait comprendre pourquoi ça a toujours été dur l'école pour moi, pourquoi mon rapport au travail c'était compliqué, pourquoi en arrivant avec Jean-Marc d'un coup j'ai adoré. Et d'un coup, il m'a expliqué, enfin, il nous a expliqué la pédagogie et tout s'est éclairé sur moi et mon rapport à l'apprentissage, en fait. Parce que je suis quelqu'un de très curieux, j'adore apprendre. Je pense que, comme je te disais, je sais plus si c'était là ou hors micro, mais que maintenant, je sais même lire des cartes maritimes. Je m'inscris à des formations. Enfin, j'adore absorber de l'information. Je suis curieuse de plein de choses. Ce qui n'était pas très évident quand j'étais petite, quoi. Mais c'est lui qui a ouvert cette lumière. Et du coup, enseigner a été incroyable parce que j'ai pu expérimenter ça sur des élèves. Et j'ai enseigné quand même pratiquement une quinzaine d'années, parce que maintenant je n'enseigne plus. Et je me suis hyper fort épanouie. Je pense que j'ai découvert plein de choses aussi sur moi et ma flûte, et mon rapport aussi en tant qu'interprète à l'instrument en général. Je pense que j'ai compris aussi ce que ça pouvait être d'être un petit enfant pas compris par le système scolaire, enfin, avec des difficultés avec ses parents. Je pense que j'ai accompagné beaucoup d'enfants à ma manière. Donc je suis très heureuse de ça. Par contre, parce qu'il y a quand même un gros mais, qui est en général comment on considère l'enseignement musical en France, si on a la chance / l'opportunité d'avoir un beau poste, une belle équipe, des beaux collègues, je pense que ça peut être très cool. Ça a été moins mon cas aussi parce que j'ai beaucoup bougé, donc dès que tu te déplaces, tu dois retrouver, donc tu trouves pas des trucs exceptionnels à chaque fois, tu fais comme tu peux. Mais avec des collègues où c'est juste pas possible, pédagogiquement c'est pas possible, humainement c'est pas possible, alors musicalement je t'en parle même pas. Et comme je suis amenée à encore beaucoup bouger, je pense, parce que j'ai un peu la bougeotte, c'est, à un moment donné c'était, et puis c'était plus compatible, j'avais trop de concerts aussi, et je pense que je me suis un peu épuisée. Donc voilà, pour l'instant je fais une pause, et par contre je suis pas contre, je pense si ça se représente, puis je suis quand même prof encore en stage ou en masterclass, tu vois, ça j'adore. Je suis plus pédagogie de projet, je pense.
Oui, parce que t'as la bougeotte. On pourrait récapituler combien de fois t'as déménagé?
Attends, j'ai pas compté en tout. Ah oui, par ville. J'ai déménagé 3 fois à Aix en 3 ans. 4 fois à Paris en 7 ans. 2 fois à Liège en 2 ans. 2 fois à Maastricht en 2 ans. Et maintenant, 2 fois à Marseille en 4 ans. Donc à Marseille, un peu plus tranquille quand même. On lève un peu le pied.
La trentaine.
Peut-être c'est ça.
La trentaine TMTC.
Mais ça fait pratiquement, à part Paris, peut-être que si ça avait été plus facile de déménager à Paris que ce que ça ne l'est, j'aurais peut-être déménagé tous les ans aussi, je ne sais pas. Mais c'est quand même pratiquement un déménagement par an, ouais.
Ouais. Et tu fais partie des gens qui connaissent la rive gauche et la rive droite, et ça c'est rare.
Eh oui, c'est vrai.
Un retour d'expérience peut-être.
Non, j'ai adoré tous les quartiers où j'habitais, vraiment. Chacun avec leur vibe un peu différente. Si je devais choisir maintenant, il faudrait déjà que je revienne parce que Paris a beaucoup changé. Et je crois que ça dépendrait aussi de comment j'ai envie d'investir le territoire, justement, parce que c'est vrai qu'en fonction de où tu vas pour le boulot, il y a des lignes de métro qui sont plus faciles que d'autres.
Oui, ça, c'est les trucs et astuces des gens qui connaissent Paris.
Exactement.
Qui savent ce qui est pratique et ce qui ne l'est pas. De quoi tu as besoin pour te sentir chez toi, toi qui bouges beaucoup et a beaucoup bougé de chez toi? Ma phrase n'a aucun sens, mais je t'ai compris.
Ah ouais, non, c'est... je sais pas si je saurai un jour. J'ai découvert récemment que je me sens chez moi partout où je suis. Donc déjà, il y a quelque chose de l'autosuffisance. Mais en fait, je me sens déracinée. Donc je crois que je cherche aussi beaucoup un espace où habiter qui coche un petit peu toutes les cases pour que je sois bien professionnellement, bien psychologiquement, que j'ai assez de soleil apparemment, assez de mer Méditerranée. Mais ça peut jamais cocher toutes les cases parce que c'est multiple et puis parce qu'on n'a jamais envie des mêmes choses un jour sur l'autre. Enfin, moi-même, des fois j'ai envie d'habiter sur la rive droite et des fois j'ai envie d'habiter sur la rive gauche. Je pense que je peux dire que je me sens plus chez moi à Marseille que partout ailleurs où j'ai habité. Mais par exemple, j'ai vraiment besoin d'avoir en projection le fait que ça n'est qu'un temps, que bientôt on va refaire nos valises et on va partir. j'arrive à accepter l'idée que ça n'arrivera peut-être pas, mais j'ai absolument besoin que ça soit une sorte de, comme une porte de sortie, de me dire, ok, elle est là, si je veux la prendre, je peux la prendre. Sinon, je me sens étouffée, je pense, un peu. J'ai l'impression que si je m'arrête de bouger, je vais m'arrêter de vivre. Donc c'est fort quand même.
Oui, du coup, ça, t'as l'impression de prendre un énorme risque.
Oui, exactement. Je pense qu'il y a aussi le fait que... Il y a le déracinement, mais donc du coup, il y a l'enracinement. C'est un mot qui est très... je sais pas comment dire, je fais un geste, mais oui. Évidemment, on va pas le voir. Mais...
elle a des points fermés, elle tire vers le bas.
Oui, qui est voilà. Très... Tu peux plus bouger, quoi.
Oui.
Voilà.
Mais c'est associé à une immobilité.
Oui.
Qui serait mortifère, du coup.
Oui.
Je vois.
Mais ça s'allège aussi, peut-être avec la trentaine. Avec des choix aussi qui sont différents. Je pense que le fait, de, par exemple, d'assumer... de n'être plus qu'interprète, d'être une artiste, d'être juste flûtiste dans ma vie et plus bah, prof. C'est quelque chose qui m'a beaucoup libérée, par exemple. Parce que je crois que d'être prof, c'était aussi une forme de sécurité. Et j'accepte la non-sécurité du statut d'intermittent. Mais du coup, je m'octroie un espace de liberté avec cette non-sécurité. Enfin, je sais pas, c'est pas très clair, mais... Et du coup, je crois que j'arrive mieux à concevoir de m'ancrer quelque part, parce que je peux être libre, par exemple, dans mon métier. Je voyage beaucoup pour mon métier, donc je suis très contente quand je rentre chez moi, que ça soit chez moi, où mon canapé, il est à sa place, et ma machine à café, elle est à sa place. Donc je voyage autrement maintenant. Je voyage pour les concerts. Et en fait, juste, c'est super, quoi.
Si je rembobine, qu'est-ce qui t'a emmené à Liège puis à Maastricht, de plus en plus au nord, dans une culture de plus en plus anglo-saxonne ?
Je voulais pas partir de Paris. Mais bon, j'ai vécu un événement assez traumatisant. Je pense qu'il fallait que je m'éloigne. Et je rencontre à Dijon, un peu par hasard, le prof de flûte de Liège, qui est juste un flûtiste exceptionnel dont on n'entend pas parler en France, parce qu'on est quand même assez franco-centré quand même. De moins en moins, j'ai l'impression, mais bon. Et donc, je me dis, bah, je tente le concours et puis on verra. Et je l'ai, donc je déménage à Liège. Mais c'était la torture. Je râlais en faisant mes cartons, je râlais sur la route, je râlais en défaisant mes cartons là-bas. Et en même temps, je pense que ça m'éloignait aussi encore plus de la Corse. Et je crois que c'était nécessaire. Je pense que j'avais vraiment besoin de partir très loin, justement, des cultures de plus en plus étrangères. Les Pays-Bas, c'était carrément même plus la même langue, parce que Liège est encore francophone. Et Maastricht, c'était la libération, je trouve, de... Je comprenais pas ce que les gens disaient autour de moi. Et ça me sécurisait. Enfin, je sais pas comment dire, j'étais... Je découvrais quelque chose de complètement différent. Et ça m'a permis, je pense, de mettre de la distance avec cette culture corse qui est très, très prégnante, qui est très intense, qui est envahissante aussi. Et ça m'a permis de faire le tri. De me dire, ok, ça, je garde. ça, non.
Oui, on en parlait en préparant l'émission de ce qu'était l'identité. Que c'était autre chose que les origines et que c'était un concept mobile, enfin plus que mobile, malléable
ouais.
Que à chaque fois on prend des choses et on en laisse de côté au fur et à mesure qu'on avance et peut-être qu'on se déplace aussi, parce que mine de rien c'est quand même lié à la géographie, pas seulement à l'histoire. Disons qu'il y a deux axes, un horizontal et un vertical sur lequel on avance, le temps et l'espace. Et toi, à ce moment-là, justement, t'as pu te créer une identité assez nouvelle dans ce nouveau décor.
Oui. En fait, je pense que ça a été le... Bon, après, je sais pas, tu l'analyses avec du recul, donc sur le coup, tu t'en rends pas compte, bien sûr, mais je pense que ça a été un peu le point final. Parce que j'ai eu tout de suite conscience, parce qu'en arrivant à Aix-en-Provence, déjà, j'étais étrangère, puisque j'étais de la Corse.
Très exotique.
Voilà, c'est ça. Donc, j'ai très vite... Et puis, je rencontre d'autres gens, je rencontre d'autres cultures. Je me confronte, je ne comprends pas certains comportements, par exemple, où je suis là, mais c'est trop bizarre. Pourquoi un tel réagit comme ça ou un tel a dit ça? Et je me confronte à l'altérité. C'est vrai que la Corse, étant une île, étant donc isolée, il y a très peu de brassage. Le seul brassage qu'on a, c'est le tourisme, mais c'est pas un mélange, en fait. De plus en plus, maintenant, il y a une ouverture culturelle qui se fait, pas qu'avec la Corse, mais avec toute la Méditerranée. Mais je crois que pendant des années, je viens d'un héritage, enfin, mes grands-parents font partie de la génération où ils n'avaient plus le droit de parler corse, un peu comme dans toutes les régions de France, hein, mais où il y a eu des années où on s'est refermé, il y a des années où on s'ouvre, et il y a des années où on se referme, et moi j'étais là-dedans, donc d'un coup je me suis ouverte toute seule aux autres par la force des choses, par la musique, etc. Et les Pays-Bas, puisqu'après il y a eu Marseille, les Pays-Bas ont été vraiment un point... un petit point final pour dire, ok, maintenant j'ai fait le tri, je peux revenir proche de la mer sans me refaire happer. Parce que j'avais une peur bleue de retourner dans mes anciens travers, des choses que je voulais plus, auxquelles je voulais plus avoir affaire. Il fallait que je sois assez forte pour pas, et que ça ait duré assez longtemps pour pas me relaisser embarquer, quoi.
En même temps, ce qui est marrant dans le choix de Marseille, c'est que c'est vraiment la synthèse de toutes ces villes. C'est une capitale culturelle, ça a été capitale européenne de la culture. Mmh. Maastricht étant aussi une ville éminemment culturelle, ouais, et éminemment européenne.
Bien sûr.
Disons que ça a les bons côtés de pas mal de toutes ces villes. Paris, Maastricht, Liège, ouais. Aix, le côté méditerranéen. Mmh. Et en même temps, c'est un port très ouvert sur la Méditerranée.
Ouais. Bah, c'est vrai qu'avec le recul, il y a un sens. Mais sur le coup, tu te rends pas compte. Et puis, je pense qu'il y avait un peu de l'ordre de la fuite que j'ai su transformer, apparemment. mais Marseille est un bon port d'attache. Je m'y sens bien parce que c'est assez cosmopolite. C'est très ouvert, ce que tu disais, c'est très vrai. Il y a des villes méditerranéennes françaises qui sont beaucoup plus fermées. C'est pas le cas de Marseille. Et puis voilà, comme je disais tout à l'heure, on verra la suite, je sais pas. J'aime croire qu'il y aura peut-être...
Il y aura une autre logique.
Voilà, c'est ça. Je reviendrai t'en parler. Pourquoi j'ai choisi New York.
Parce que c'est un port très ouvert.
Exactement. Parce qu'il y a aussi eu beaucoup de migration.
À quel moment dans ton parcours tu sens que tu vas écrire ta musique et créer tes spectacles ?
À aucun moment.
C'est après, c'est dans la vie pro.
Même pas. Ça m'est tombé dessus, je pense. En fait, j'ai fait un coaching. Non, mais attends, je vais tempérer un petit peu parce que j'ai quand même monté des projets quand j'étais justement à Rueil. C'est pas moi qui écrivais la musique, mais j'avais envie de... Bah, parce qu'on aussi on est jeune, et puis c'était dans l'air du temps, j'avais envie un peu de dépoussiérer, je mets des gros guillemets, la musique classique.
Oui, ben, dans les années 2010, c'était ce qu'on faisait. C'était l'air du temps, voilà.
On dépoussiérait la musique classique, ouais. Donc t'en fais des spectacles, ou t'en fais des trucs pour enfants, enfin... Donc ça, j'ai fait quand même... j'ai appris à construire un spectacle, et faire une affiche, c'était mes premiers essais. On a fait des concerts, diverses formations de brigue et de broc, tout à fait honorable hein, au demeurant, mais je pense que sur le coup, je ne savais pas ce que je faisais, j'essayais. Et si ça marchait, on recommençait, et puis si ça ne marchait pas, on changeait d'idée, quoi. Et en même temps, je pense que ça construit. Ça a construit le fait que maintenant, je peux dire que je suis compositrice et que je suis créatrice et performeuse. Mais c'était pas dans l'optique de le devenir, c'était un peu parce qu'il y avait besoin et qu'on n'allait pas payer un metteur en scène et on n'allait pas... Donc tu développes des compétences en parallèle de ton instrument, mais qui viennent nourrir un propos artistique, donc je trouve que c'est très lié quand même. Et puis, en arrivant à Marseille, justement, j'ai fait un peu de coaching flûte, justement, avec une Américaine qui est à Chicago et qui m'a dit, mais si tu pouvais faire ce que tu veux, musique ou pas musique, en fait, on s'en fiche, si tu pouvais faire ce que tu veux, qu'est-ce que tu voudrais faire? Et c'est là que je dis, mais en fait, je voudrais faire mon spectacle, enfin, une performance sonore qui parle des territoires, des migrations, des identités liées au déplacement, de la complexité, parce qu'on ne se déplace pas toujours par plaisir ou par envie, de qui on est quand on décide de partir, de qui on est quand on est en train de partir, qu'il y a des traversées qui se passent quand même plus ou moins bien, de qui on est quand on arrive, de ce qu'on rencontre. Et c'est là que je me suis dit, bah, en fait, c'est ça que je vais faire. Puisque si je peux tout faire dans la vie, je décide. Enfin, c'était... Et là, j'avais les outils, du coup. Tout ce que j'avais mis en place. Après, bon, y a des compétences que je n'avais pas encore, mais j'avais le socle, en fait.
Et le spectacle s'appelle ?
Flutidity. Ça s'appelle Les gens qui partent.
Et donc, qu'est-ce que... tu peux nous en dire plus ?
Ouais, je peux vous dire un petit peu ce qu'il y a dedans. En gros, la trame est assez basique parce qu'on suit vraiment une personne dans son élément d'origine. En l'occurrence, je parle de la Corse, du coup, puisque en fait, je parle de moi au départ pour après aller sur quelque chose de plus universel. Mais que cet environnement qui est le cocon familial bah, peut être aussi oppressant parce que souvent on ne se sent pas complètement soi-même. On a été élevé, mais du coup on est peut-être un peu bridé, pas dans certaines familles plus que d'autres, mais par certains aspects. Donc de la décision de partir, il y a tout le trajet aussi qui est mis en musique. Il y a l'arrivée avec le choc de l'autre culture, de comment c'est un choc de débarquer bah, voilà, dans un pays étranger par exemple. Mais comment toi aussi, t'es un choc pour les autres quand t'arrives et que tu débarques avec bah, ta méditerranéité aux Pays-Bas. Eux non plus, ils n'ont pas compris. Hein. Enfin, c'était... et comment, si, avec un petit peu de souplesse, un petit peu de curiosité, un petit peu de lâcher prise, tu peux intégrer des éléments qui façonnent ta nouvelle personnalité. Et donc ça, c'est vraiment la trame. Moi, je joue... des quatre flûtes, le piccolo, la flûte en ut, la flûte alto et la flûte basse. Une pièce d'un compositeur, donc ça c'est quelque chose qui a déjà été écrit, un compositeur mexicain qui s'appelle Wilfrido Terrazas, qui retrace le parcours d'Ulysse en Méditerranée. Et en fait, par-dessus ces pièces qui ont déjà été écrites, moi j'ai composé la texture électronique qui vient converser avec Ulysse, avec le mythe des déplacements. Donc, il y a des trucs très basiques, où je suis allée chercher des sons de la mer, des sons des voiles, du vent en Méditerranée, qui me servent aussi, que je traite comme de la musique. Il y a aussi des témoignages de gens. Donc là, on a un peu toutes les langues qui parlent de leur propre déplacement, que je traite aussi comme de la musique. Des fois, il y a des vraies phrases qu'on peut comprendre d'un bout à l'autre, mais des fois, j'ai pris juste des syllabes que je rythme et qui puis en plus chaque voix a sa tonalité a ses inflexions aussi qui traduisent hein, d'une identité ou d'une origine ou d'un mélange et je voulais pas être toute seule non plus à porter le poids du discours du déplacement parce qu'en fait je trouvais que c'était quand même pas très il y a d'autres gens et il y a toute une diversité et d'essayer de montrer cette palette. Et alors l'idée qui est assez chouette, c'est que chaque endroit où on joue le spectacle, on arrive avant et on recueille des voix sur place et on emmène ces voix alors à voyager avec nous. Et là, j'ai déjà fait deux représentations où j'ai réalisé, je ne me rendais pas compte avant, mais j'ai réalisé que en fait, je connais ces gens parce que c'est moi qui les interviewe et qui vais chercher un peu les témoignages. Maintenant, quand j'entends leur voix, j'ai une mémoire de leur visage ou de conversations qu'on a pu avoir. Et donc, je suis sur scène avec eux. J'ai vraiment plus du tout l'impression d'être toute seule. Donc ça, c'est assez puissant, quoi. Et on fait se déplacer les voix d'émigration.
Et est-ce que tu as l'impression, en créant ce spectacle, que toi, tu évolues dans de nouveaux territoires artistiques, en allant vers la compo, en allant vers la mise en scène?
Ouais, je prends plus conscience, déjà que c'est vers là que je veux aller, artistiquement, musicalement, c'est ça qui me plaît. Et j'aime le fait que ça m'interroge, et que ça interroge le public aussi, mais que ça, d'abord, en premier lieu, ça m'interroge sur ce que je veux vraiment dire. Et on en revient à trouver ma voix et le son de ma flûte, mais ok, une fois que j'ai eu mon son et que je l'ai trouvé à Rueil, je mets quoi dedans en fait? C'est quoi la consistance de ce son? Et maintenant, ça trouve son chemin. Donc,
Parce que t'aurais pu t'arrêter à, voilà, j'ai un joli son, je vais faire de l'orchestre, avoir un joli son.
Oui, c'est vrai. J'ai essayé un moment hein, de faire de l'orchestre. J'aime bien, j'adore jouer en orchestre, hein. C'est quand même très, c'est un gros kiff hein, quand même. Il y a une masse sonore qui est incroyable. Mais j'aime, enfin, c'est un peu bizarre de dire comme ça, mais moi j'aime cachetonner. J'aime venir pour un projet, une semaine, je découvre, je fais le même opéra pendant, voilà. Mais être titulaire d'un même orchestre, mais aussi, pareil, on fait des liens, mais ça, je crois que c'est normal, hein, mais c'est l'immobilité encore. Et ça m'angoisse hyper fort. Donc une fois que t'as compris ça et que t'as accepté que c'est pas pour toi, c'est plus simple aussi de faire d'autres choix. Mais il faut déconstruire un peu tout ce... Pendant 10 ans, j'ai cru que c'était ça que je voulais dans ma vie, parce que c'est ce que tout le monde veut. Ou c'est ce qu'on te dit qu'il faut vouloir, je sais pas.
Ouais,
mais
c'est le modèle de réussite.
Ouais. Mais ça m'aurait pas épanouie. Ouais, les trucs fixes, c'est pas... c'est pas pour moi, voilà, c'est comme ça.
Et en sachant ça, si moi je te demandais de créer une école, je reste exprès vague sur le terme, qu'est-ce que tu aurais envie de créer?
Moi, j'aimerais créer un espace un peu, tu vois, un peu loft ou garage, un espace grand où on peut, où il y a, enfin, je sais pas, où il y a pas de règles. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais où il y a peut-être un projet, un thème, et des gens viennent travailler là-dessus. Un espace d'expérimentation. Je sais pas comment on pourrait cadrer ça, parce que forcément il faudrait quelque chose qui unisse tout ça, mais après je sais pas si c'est ça que t'entends par école. Est-ce que école, il y a transmission forcément?
Ouais, il y a tout le temps transmission, enfin pardon de faire une phrase de concours CNFPT, mais enfin, quand il y a concert, il y a transmission. Quand il y a masterclass, il y a transmission. Quand il y a cours hebdomadaire, il y a transmission. Et même quand il n'y a pas un contexte ni de concert ni de cours, il y a quand même transmission dès lors qu'il y a relation, je pense. Non, je dis école au sens exprès vague, parce que comme tu parlais de mobilité, peut-être que toi, tu arriverais à imaginer un jour quelque chose en lien avec la mobilité et qui soit en même temps dans la transmission, parce que pour... J'ai la sensation qu'on est dans un modèle où l'enseignement, en tout cas moi qui enseigne, on le fait comme ça, c'est fixe, c'est hebdomadaire, voilà, c'est un rendez-vous. Parfois on en sort, ce qui fait du bien, mais ça fait du bien d'en sortir parce qu'on y est le reste du temps. C'est-à-dire, ce qui est sympa pour certains projets, c'est de casser la routine, mais casser la routine sous-entend avoir une routine.
Bien sûr.
Avec ses avantages et ses inconvénients. Que le potentiel ennui, et en même temps, pour progresser, il faut la pratique, il faut répéter. Et répéter, bah, c'est routinier. T'as beau être... alors, la manière de hacker ça, c'est d'être créatif ou créative dans sa manière d'apprendre et de pratiquer, mais ça demande déjà d'avoir pratiqué.
Oui, bien sûr. Oui, bien sûr.
Nous, je pense qu'on y arrive parce que ça fait 25 ans qu'on pratique.
Ouais.
Voire 30, mon Dieu. Mais voilà, mais donc c'est pour ça que je disais école au sens vraiment vague. Mais t'as déjà donné une idée, voilà, ce serait quelque chose axé sur la pédagogie de projet.
Ouais, je pense. Et En fait, je me déplace déjà pour enseigner parce que je suis prof dans des stages un peu partout où ça se présente, ou des masterclass. Et puis souvent, enfin bah, de temps en temps, on va dire plutôt, mais le projet de Fluidity, il peut être combiné si tu vas le faire dans tel conservatoire ou dans tel espace culturel. Est-ce que c'est possible d'avoir un temps avec les élèves pas forcément flûtiste du coup, mais où tu parles, où tu leur apprends, je sais pas, moi faire un peu de montage électronique ou peu importe, en fonction des besoins et de ce que moi je me sens capable de transmettre justement. Donc ça je le fais déjà, mais c'est vrai que quand tu dis école, j'ai l'impression qu'il faut penser à quelque chose un peu d'organisé, dans le sens où, admettons que je propose cette école de projet. Alors il faudrait, si je réfléchis un peu comme ça, mais j'imaginerais bien faire que ce projet-là peut être mobile et trouver alors dans des villes des espaces grands pour et alors qui veut s'inscrire, etc. Ça pourrait être chouette. Donc créer une école, je sais pas comment on peut appeler ça. Avec à chaque fois peut-être un thème, et les gens intéressés s'inscrivent, et ça, je peux le déplacer, évidemment, ça c'est pas un problème, ouais.
Est-ce que pour toi, il pourrait exister un territoire idéal que tu as le droit de rêver et d'inventer?
Oh bah oui. Ouais, ça reste proche du soleil et de la mer, quand même,
C'est pas interdit.
hein. Je crois que ce qui fait vraiment défaut à Marseille, parce que je pense que c'est une ville que j'aime beaucoup, ça reste un petit peu les mentalités, encore un poil trop patriarcal, et c'est un peu rude les rapports hommes-femmes, c'est un peu compliqué. On n'a pas vraiment évolué.
Tu penses que c'est propre à Marseille ou propre à la Méditerranée?
Je pense que c'est propre à la Méditerranée. En fait, ça bouge plus lentement en Méditerranée. J'essaie de comprendre pourquoi. Tu vois, aux Pays-Bas, par exemple, le tri des déchets, bah, le vélo, les voitures interdites dans les villes, les rapports humains. C'est bon, ils ont compris, quoi. Ils ont compris depuis longtemps, hein. Et c'est pas très loin quand même les Pays-Bas, c'est un peu le nord de l'Europe, mais ça va, c'est pas le fin fond de l'Asie, tu vois, c'est pas loin de chez nous quand même. Et je sais pas si c'est, ouais, les mentalités sont plus longues à bouger. Mon compagnon, il est historien, et il y a quelques années, il a passé l'agrégation d'histoire. Et pour préparer l'agrégation, il y a plusieurs sujets qu'ils doivent travailler. Notamment, ils devaient travailler, si je ne me trompe pas, parce que c'est tellement pointu que voilà. Mais c'était l'Antiquité grecque et romaine, moins 5, moins 1 avant Jésus-Christ, ou quelque chose comme ça. Et donc, il avait des textes antiques à lire, à analyser, à apprendre. Et il m'en a fait lire quelques-uns. Et vraiment, sans mentir, chaque phrase qui était écrite, je disais, mais ah, c'était la famille. C'était la famille grecque et romaine, je crois que c'était ça. Et je disais, mais ça, c'est ma famille. Oh, mais ça, c'est mon père. Oh, mais ça, c'est exactement comme ça chez moi. Mais c'est des textes qui datent de 5 siècles avant Jésus-Christ, quoi. Et on y est encore maintenant, en 2024. Ça, c'était lunaire. C'est que en fait on n'a pas évolué du tout. Voici un petit peu quoi, mais
On s'est bien transmis les choses.
ouais, exactement. Alors là, ça a marché. Le canal, il est direct. Donc peut-être c'est ce qui illustre le mieux. C'est ce moment où j'ai vraiment compris que on a peut-être encore pour 5 siècles.
Et donc dans ton territoire idéal qui n'est pas tout à fait le Marseille d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu mets comme ingrédient? Sachant que tu as le droit de rêver, donc ça peut être complètement utopique et...
Ouais. Ouais, je mets la mer Méditerranée, je mets le soleil, Les tomates et l'huile d'olive.
Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de nourriture, mais est-ce qu'au Pays-Bas, c'était pas ta plus grande frustration?
Ils ont des choses très bonnes, à base de friture. Donc ça va bien 5 minutes. Ouais, c'est... Bah, c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est compliqué. Bah, après, je sais pas, ils sont plutôt sportifs et bien portants, hein, donc ça a pas l'air de trop les affecter au niveau de leur forme physique et mentale. Mais moi, quand j'ai recroqué dans une tomate, quand on a posé nos valises à Marseille, j'ai mes pupilles se sont dilatées, quoi. Tu
vois, et tes papilles aussi.
Oui, exactement. C'est joli. Donc ouais, il y aurait un peu toute la nourriture, les épices, les odeurs, tout ça. Je pense qu'il y aurait une pensée plus intelligente de la vie, de l'urbanisme. Voilà, un trafic de voitures un peu plus régulé, mais pas par l'autorité, pas par la... Pas par la punition,
par la force,
ouais, c'est ça. Plus parce que c'est bien pensé. Là, j'ai l'impression que c'est pas pensé, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué, quoi. Et oui, clairement, ce qui m'affecte directement, c'est le rapport homme-femme, bien sûr. Mais le rapport à la violence, le rapport aux dominations, en fait, en général. Qui est un peu, bon bah oui, mais c'est comme ça, c'est celui qui parle plus fort qui a raison, quoi. Et ça, c'est plus possible. Enfin, j'ai grandi là-dedans, donc bon, pendant un temps, je connaissais pas autre chose. Mais après, tu découvres, justement, tu te dis, ah oui, on peut se parler avec respect, c'est intéressant aussi. Parce que l'autre a peut-être des choses à dire, quoi.
Donc c'était peut-être bien d'aller jusqu'aux Pays-Bas.
Ah mais c'était nécessaire. C'était nécessaire.
Un peu trop de frites, mais en tout cas... Mais ouais, on peut voir qu'il y a d'autres rapports qui existent.
Ouais. Mais c'est ce qui me pèse le plus à Marseille.
Donc le territoire idéal n'existe pas, mais on peut y rêver.
Ouais. Je sais pas si... Probablement que c'est déjà plus facile à trouver dans les grandes villes. Tu vois, je parlais de New York tout à l'heure où j'ai été en vacances. Mais bon, t'as d'autres aspects, alors... T'as vraiment les fenêtres qui s'ouvrent pas, bon bah là c'est pas possible quoi. Là je pourrais pas par exemple. Donc je pense déjà être proche de l'eau, ça serait mon top 1. Voilà. On verra le top 2, je réfléchirai.
Les tomates sur le marché, visiblement, je crois que c'est quand même un critère à ne pas négliger. Ouais, en saison, bien sûr.
Évidemment. Ouais, sinon, ça n'a pas d'intérêt. Sinon, c'est comme si tu les manges aux Pays-Bas. Oui, c'est ça. Ça n'a pas de goût.
Et tu dis New York et ça me fait penser à Hopper. Tu travailles avec l'ensemble Hopper. Tu en es directrice ou... Non, membre.
Non, ouais. Je fais partie du CA, quand même. Mais je ne suis pas du tout directrice artistique. Je suis flûtiste de cet ensemble qui est basé en Belgique. Et avec lequel on fait des créations de compositeurs, de jeunes compositeurs, essentiellement wallons, parce que c'est vraiment comme ça que l'ensemble est né, mais qui s'ouvre aussi à d'autres compositeurs, compositrices d'ailleurs. Donc ça nous fait aussi pas mal voyager, c'est chouette, et c'est un ensemble à géométrie variable. Donc ça aussi, c'est toujours... c'est les mêmes membres, hein, donc c'est toujours les mêmes collègues, mais c'est jamais similaire d'un projet sur l'autre. Des fois, on fait des choses simplement acoustiques, des fois, on fait avec électronique, des fois, on fait avec des trucs un peu plus rock ou fusion. Enfin, c'est assez chouette. C'est un très, très beau panel. C'est des très belles découvertes aussi.
Donc, t'es un peu titulaire dans un orchestre quand même. Pardon, je t'ai piégée.
Je savais que tu finirais par m'avoir. Mais j'habite pas là où je travaille.
Oui.
Donc je me suis quand même octroyée de la distance. Ça aurait été plus facile d'habiter... En fait, on a décidé d'aller habiter à Marseille après le Covid et après le premier confinement. On aurait pu choisir... Il fallait rentrer en France, en fait... pour des raisons administratives, et on aurait pu choisir Lille.
Oui.
Et moi, j'étais à Bruxelles en une demi-heure, quoi. Donc, j'ai quand même pas choisi la simplicité non plus. Et j'aime bien. C'est pas... Ouais. C'est intéressant, je sais pas pourquoi je... J'aime bien quand c'est... Ouais.
Quand c'est pas trop simple.
Je pense que si j'étais dans cette... Enfin, si je suis dans cet ensemble, mais si j'habitais sur place, je me sentirais étouffée. Donc j'y vais, je fais le projet la semaine, on répète, machin, tout ça, on fait nos concerts. Puis je reviens. Ouais, je crois que c'est ça, c'est ça dont j'ai besoin, en fait.
En fait, t'as besoin de voyager.
Ouais. J'ai besoin de traverser les territoires. Ouais.
Et je me demandais du coup à quoi... Je me demandais ce que représentait le voyage pour toi, de fait. Mais c'est juste traverser, c'est l'épopée, l'odyssée, pour reprendre un mot méditerranéen.
Probablement qu'il y a un peu de l'odyssée. En bossant pour Fluidity, je me suis repenchée sur l'odyssée. Donc c'est beaucoup l'errance, etc. C'est... l'éloignement, mais la volonté de rentrer, de vouloir rentrer chez soi, parce que Ulysse, il met quand même 10 ans à essayer de rentrer chez lui. Et il y avait une partie que je connaissais pas, qui est que quand il arrive chez lui, il repart tout de suite, mais il repart dans les terres. Et il repart avec une rame, enfin je sais plus, je crois que c'est Athéna qui lui dit « Bon, maintenant tu dois repartir dans les terres, tu as découvert toute la mer, mais tu dois repartir dans les terres. » Il dit, mais je dois aller où ? Enfin, il dit, je dois aller jusqu'à ce qu'on ne te connaisse plus, qu'on ne te reconnaisse plus. Et il part avec une rame. Et en fait, il s'arrête quand à chaque fois qu'il croise quelqu'un, il dit, ah bah oui, t'as une rame. Bah oui, t'as une rame. Mm. Les gens ne le connaissent pas forcément lui, mais reconnaissent l'objet. Et à un moment donné, il arrive assez loin où la personne dit, ah, c'est un pilon à graines. Donc, il est assez loin de la mer pour que l'objet qu'il tient en main ne soit plus identifié de la même manière. Mm. Et là, j'étais assez choquée parce que j'avais l'impression que l'Odyssée, c'était vraiment juste l'errance et la volonté de retour. Alors qu'en fait, peut-être, c'est plus pas vouloir rentrer, quoi. Pas rentrer. Donc, je pense qu'il y a de ça. Il y a errer, voyager, traverser. Mais ce que ça m'apporte, c'est que ça m'enrichit. Je m'imprègne énormément de ce que je vis quand je traverse.
Est-ce que tu disais sur Ulysse, ça me fait penser à la manière dont on considère le retour. Alors après, je suis pas du tout philosophe, mais on dit revenir et on a l'impression que c'est un retour en arrière, alors que ça ne peut pas en être un.
Oui, c'est très vrai ce que tu dis. J'avais jamais pensé comme ça.
Et en fait, on revient forcément transformé, donc c'est de toute manière une nouvelle étape. Et enfin voilà, c'était juste pour faire une parenthèse là-dessus, parce que ça m'a fait penser à ça.
Ah non, c'est très intéressant. En fait, c'est jamais un retour.
Bah, en tout cas, c'est pas un rembobinage.
Ouais, exactement.
Nous qui avons connu les cassettes, on sait ce que veut dire rembobiner.
On vous mettra un petit tuto avec un crayon. Mais oui, parce que c'est très géographique, tu vois, tu vas d'un point A à un point B, donc quand tu vas du point B au point A, tu fais l'inverse.
C'est rewind.
Mais c'en est pas un. Ah.
Puis le lieu, il évolue sans toi. Ça, c'est dans l'Odyssée aussi. Ithaque a évolué sans lui.
Oui, tu retrouves pas du tout ce que t'as laissé. Mm. Et toi-même, t'es pas la même personne. Donc,
Et c'est ce qui est peut-être pas forcément évident dans l'expérience du retour aussi.
Peut-être c'est pour ça que pour certaines personnes, c'est difficile. Ou même si tu pars en vacances, y a un aller et un retour. Mm. Mais t'es forcément pas la même personne quand tu reviens, en fait. Après, t'es contente si ton appart, il a pas changé en ton absence, parce que sinon, ça veut dire qu'il y a eu des problèmes.
Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé et que tu souhaiterais qu'on évoque ?
Moi, j'aimerais savoir c'est quoi ton rapport au territoire.
Voilà, ça va rajouter 1h30 d'émission, je pense. Parce que pour moi, c'est carrément... Déjà, c'était complexe et c'est nourri de 43 épisodes du podcast et de lecture.
Alors, je peux ou affiner ou compléter.
Vas-y.
Est-ce que tu as l'impression que plus les podcasts avancent et plus tu grandis, tu mûris, est-ce que tu as l'impression que c'est une question qui tend à trouver sa réponse ?
Oui, ou à s'élargir ?
Ouais.
C'est un peu les deux. Super réponse de Normand.
J'adore.
Dans mon poste d'enseignement, j'ai vraiment envie de développer la diffusion artistique à partir du conservatoire, parce que je travaille dans un conservatoire où justement il y a beaucoup de choses à faire, parce qu'on est à Paris, qu'à Paris, il n'y a pas une énorme demande de diffusion artistique, parce que l'offre est déjà pléthorique. Et en même temps, ce sont toujours les mêmes gens qui vont au même concert. Je schématise parce qu'évidemment, c'est plus complexe que ça. Mais c'est surtout les mêmes qui n'y vont pas. Mmh. Et y compris des publics et des usagers du conservatoire. Donc, voilà, moi, j'ai envie de développer la musique publique sur le territoire qui nous concerne, c'est-à-dire le 14e, nord comme sud, parce qu'il faut balayer le territoire qu'on est censé balayer. Donc vraiment, de Denfert Rochereau à la Porte de Vanves, voilà, tu traces une grande diagonale.
Ce qui est grand, hein.
Donc c'est pas mal de boulot, ça m'intéresse. Ce que je transmets à mes élèves, moi j'ai en moyenne une demi-heure de cours. Qu'est-ce que je leur transmets? Est-ce que je leur transmets uniquement comment jouer Do majeur bien juste avec un joli son? Je crois honnêtement que c'est beaucoup plus que ça. Déjà parce que, la manière dont les cours sont faits, c'est-à-dire je donne des cours individuels, pas systématiquement parce qu'il y a certains cursus qui sont en collectif, mais globalement j'ai un rapport individuel, les élèves ne changent pas de prof. Donc on fait partie des rares adultes référents à suivre des enfants pendant leur croissance, de la petite enfance au jeune âge adulte, de 6 ans à 20, 22 pour certains. Donc à part les parents, la famille et le médecin de famille, c'est très rare d'avoir un rapport aussi privilégié avec quelqu'un en croissance, qui est une éponge. Donc ça aussi, mine de rien, c'est important. Voilà, qu'est-ce qu'on leur donne comme ingrédient en tant que citoyen en devenir? Mine de rien, c'est aussi une question territoriale. Après, dans ma vie d'artiste, ça concerne aussi la diffusion, c'est qu'est-ce qu'on diffuse? Moi, j'ai tendance à penser que tout est politique, donc je politise un peu tout, ce qui peut agacer les gens. Tant pis, il faut bien faire des choix. Donc, moi, je pense comme ça, donc je choisis des projets qui sont, nécessaires. Donc, j'ai différents projets. J'ai ce quartet dont je t'ai parlé qui s'appelle La Cosna, où on reprend des chansons trad, dans lequel je suis chanteuse et violoncelliste avec Clémentine Ristor au saxophone soprano et à la clarinette basse, Pierre-Antoine Despatures à la contrebasse et Benjamin Garçon à la guitare électrique. Voilà, à qui je fais de grosses bises. Donc une manière de faire vivre le patrimoine, et j'oserais même dire le matrimoine, parce qu'en fait, ce ne sont que des histoires de femmes qu'on a choisies pour l'album qui va sortir bientôt. Parce que voilà, ce sont des paroles qui résonnent étrangement avec notre quotidien, et ce sont des textes qui datent, pour certains, qui ont 200, 300, 400 ans. De toute façon, on ne sait pas vraiment, ça s'est transmis dans des cuisines, dans des chambres, dans des endroits comme ça, où les femmes chantaient entre elles et se transmettaient des histoires pour apprendre à se méfier du monde. Donc voilà, c'est aussi une manière, d'être en territorialisée, disons.
Moi, je suis d'accord avec toi de dire que je crois aussi que tout est politique, et d'autant plus avec les métiers qu'on fait, de par la diffusion. Donc, on a la chance d'être entendu, même si peut-être pas par le public qu'on voudrait tout le temps, ou exactement ce que tu illustrais tout à l'heure. Mais donc, on peut choisir de dire certaines choses parce qu'on a cette place-là, mais c'est un combat. Parce qu'en fonction des années, c'est plus ou moins facile, c'est plus ou moins accepté.
C'est sûr que tu ne fais pas l'unanimité quand tu fais certains choix. Bon, c'est comme ça. Moi, j'assume qu'il y a des projets auxquels j'ai plus envie d'adhérer.
Ouais, c'est des questions intéressantes, parce que je crois qu'il faut avoir conscience de la société dans laquelle on s'inscrit quand on propose un concert, quel qu'il soit. Parce que c'est sociologique aussi, c'est anthropologique. Enfin, y a peut-être des espaces où tu peux proposer les 4 saisons de Vivaldi en version longue. je vais me dire, pourquoi pas, si les deux se rencontrent, en fait. Maintenant, si c'est pour ton kiff personnel, c'est plus compliqué à défendre. Parce que, fais-le chez toi. Oui, je crois qu'il faut avoir... Je dis il faut, mais je suis pas sûre. Mais Est-ce que tu veux cette rencontre? Ou est-ce que tu t'en fiches? Je crois que c'est ça peut-être. Si tu la veux, tu dois chercher comment capter, comment transmettre.
Mais je pense que les sphères où on peut jouer de la musique sans la présenter, parce qu'en fait, c'est un cercle de... Il y a un mot allemand qui est Kenner, qui est les connaisseurs, de ceux qui savent, qui ont les clés d'écoute et qui n'ont pas besoin qu'on leur explique. Je pense que ça existe déjà et que ça existera toujours. Je suis pas très inquiète, en fait.
Oui, non,
Je suis
c'est
pas
vrai.
très inquiète pour l'excellence, globalement. Je suis beaucoup plus inquiète pour tout ce qu'il y a en dessous et pour les écarts qui se creusent.
Mais je suis tout à fait d'accord avec
Voilà,
toi. Ouais.
c'est...
Oui, c'est très très vrai. Et moi, je suis un peu mitigée. Je regarde ça avec beaucoup de critique, je pense, sur justement certains cercles d'excellence qui essaye de tendre la main, mais du coup c'est de la condescendance. Et du coup il y a un vrai manque de compréhension de ton public, à qui tu veux t'adresser, et qui ne le fait pas forcément pour les bonnes raisons, et du coup qui rate complètement le coche, donc qui prend la place de compagnie qui le ferait mieux, ou enfin pas que des compagnies d'ailleurs, mais peu importe. Donc qui gèle un peu justement les espaces où ça pourrait être possible, mais qui en plus ne sert pas le propos. Là, ça me met fort en colère, ouais. Parce que je pense qu'il y a des choses à faire qui peuvent être sublimes.
Tout ça pour revenir à mon rapport au territoire, je t'ai donné une toute petite lucarne.
Ouais. Oui, c'est chouette, c'est déjà.
Parce que aussi au début, je me suis questionnée, j'habitais quand j'ai commencé ce podcast, j'habitais pas à Paris, je faisais des allers-retours. Et au final, je me suis posé la question du sens. C'est-à-dire, je me suis dit, mais pourquoi moi, je vais aller parachuter comme ça 3 jours par semaine à Paris, un savoir que j'ai emmagasiné. Et j'ai de la chance parce que j'ai eu d'excellents professeurs et d'excellents musiciens autour de moi et musiciennes, qui fait que j'ai pu emmagasiner plein de choses que je peux transmettre. Et c'est super agréable parce que j'ai l'impression d'avoir beaucoup de cartes à la donner à différents profils pour trouver des portes d'accès à leur... progression, à trouver le bon endroit qui va bien les questionner pour qu'ils aient envie, il ou elle ait envie de faire des efforts. Parce que mine de rien, pour avoir envie de faire un effort, il faut être super motivé et convaincu de la nécessité de changer. Donc c'est, tu vois, faut toujours reprogrammer le système pour créer l'inconfort. Voilà.
Ouais, pour un nouveau
Voilà.
pattern, quoi. Enfin, un nouveau pour sortir du pattern.
Ouais. Ce qui est très amusant à faire. Et en fait, ça demande d'être créatif. C'est pour ça que ça m'amuse quand on me dit Ah, tes profs, ça va, c'est pas trop chiant. Ah, ben non. En fait, selon comment tu l'abordes,
Ben oui, bien sûr.
moi, je trouve pas ça chiant du tout. Heureusement, sinon, je le ferais pas. Au contraire, je trouve que ça demande d'être super créatif en permanence. Sinon, c'est mortifère. Sinon, c'est routinier. Sinon, ça. Voilà. Et je pense que si tu trouves ça mortifère et routinier, il faut surtout pas le faire parce que tu vas être un mauvais prof.
Oui. Alors, tu sabotes le pourquoi c'est là, quoi.
Après, il y a 1 000 conditions. Il y a des gens qui. Enfin, j'imagine qu'il y a beaucoup de paramètres, notamment financiers, qui fait que parfois tu es obligé d'enseigner et tu n'en as pas envie. Et ça, c'est dommage. C'est complètement entendable, mais.
Mais je trouve, on revient à ce que je disais quand je te parlais de combat tout à l'heure. C'est, je pensais aussi au combat avec tout l'administratif, comment est organisée la culture en France, voilà, qui a les subventions, qui ne les a pas. Et bon, voilà, on va vraiment sur du vrai politique.
Ouais, mais c'est bah oui, bah
Mais
pourquoi pas
c'est la
parler de
conséquence
territoire.
directe, exactement, c'est la conséquence directe. De certaines actions ou de certains, voilà, des gens qui sont pas forcément au poste où ils seraient le mieux. Personne n'a envie forcément qu'ils soient là. Mais comme, enfin, on a tous besoin de sécurité, donc c'est tout à fait entendable, en fait, hein, bien sûr.
Mais
C'est pas
c'est.
souhaitable.
Ouais, bref. Dans un territoire idéal, tout le monde fait ce dans quoi il ou elle est bon.
Touche un salaire décent pour
Voilà.
le faire
C'est ça, un
et
truc.
reconnu socialement.
Exactement, voilà. Ça, c'est le monde parfait.
Ouais.
Mais on a le droit d'essayer d'y aller.
Bah, bien sûr. Et de toute façon, moi, je crois beaucoup à changer de l'intérieur. Toi, en étant cette prof-là, dans ce territoire-là, dans ce conservatoire, tu infuses, parce qu'on parlait de diffuser, mais tu infuses aussi par ton comportement, par tes actions pédagogiques, culturelles. Et soit c'est de la transmission pour les élèves que tu as et qui seront eux-mêmes des citoyens, forcément, mais aussi pour tes collègues qui peuvent s'inspirer, et ce qu'on disait en préparant l'émission, ou simplement par... comment tu es et tu inspires d'autres, d'autres femmes, d'autres hommes, tu vois.
Mais je suis loin d'être un modèle. Hein. Il y a beaucoup de moments où je suis pas inspirante. Hein.
Moi, je crois que c'est là où ça m'inspire le plus, c'est de se rendre compte que les gens sont humains. Mais ça les empêche pas de faire des belles choses, tu vois. Et ça te rassure aussi sur ton côté à toi, où quand ça va pas bien, tu vois, tu dis ok, il y a pas que moi. Mais d'essayer, c'est déjà... Moi, je suis admirative, tu vois.
En tout cas, ne plus faire 200 km pour... beaucoup plus que 200, attends. Mais en fait, je sais pas. 1h40 de train, voilà. Ouais. Pour aller enseigner, habiter, du coup, le même territoire que la population que je sensibilise à la pratique du violoncelle. Et de la musique en général, j'espère. Et puis voilà, faire des choix artistiques un petit peu plus radicaux. C'est-à-dire que j'ai vraiment appris pendant 10 premières années de vie professionnelle à dire oui à tout, ce qui était super parce qu'en fait, il y a un moment, je pense qu'il faut dire oui à tout. Déjà pour faire ton statut d'intermittent au début.
Bien sûr. Puis pour savoir ce que tu as envie de faire.
Et puis voilà,
ou pas.
Pour faire le tri, parce que j'ai dit oui à des trucs où je pensais que ça allait être nul et en fait j'ai adoré. Et inversement, j'ai dit oui à des trucs où je me suis dit ça, je vais adorer. Et en fait, non. Donc. Il faut dire oui à tout. C'est peut-être le seul conseil que je donnerais.
Ouais, je suis tout à fait musicien. D'accord. Je suis tout à fait d'accord. Il faut essayer, en fait. Voilà. Et puis surtout, on est tous différents. Donc, moi, je vais dire voyage. Oui. Et toi, tu vas te dire peut-être, bah non, c'est bien situé sur ton territoire.
Pas forcément, parce que voyage. Aussi, voyage. si, si. Parce que, exactement ce que tu disais sur la notion d'identité.
Ouais, va voir ailleurs. Quoi.
Va voir ailleurs, voir ce qui est. Ce qui était essentiel et ce qui était accessoire, en fait.
Ça, c'est hyper important. Voilà.
Apprends à connaître tes valeurs, parce que chacun a ce qui est important pour lui ou elle, qui n'est pas pareil que tes parents, tes frères et sœurs, tes amis. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être en lien, mais c'est...
Voilà. Au contraire, qu'est-ce qui est viscéral. Comme ça, tu t'enrichis aussi de... Ah tiens, tes limites, elles sont là, les miennes, elles sont là. C'est intéressant. Ouais.
Mais ça ne veut pas forcément dire prends un vol charter et va profiter des gens dont le niveau de vie est 10 fois inférieur au nôtre. Ce n'est pas forcément ça, voyager. Tu peux aussi prendre un pass interrail où tu peux aller 2 mois dans le Cantal. Ça prend 1000 définitions, justement en accord avec l'autre valeur.
Se déplacer.
Ouais. Ouais. Mais en tout cas, sortir de sa zone de confort de manière générale, je pense que c'est... Ce serait peut-être ça, tout simplement pour moi, le voyage. Tu vois, c'est se mettre en inconfort. Donc ça commence, selon qui tu es, ça peut commencer très tôt. Ça peut être ne pas dormir chez soi.
Bien sûr.
Ou avoir besoin d'aller en Chine. Tu vois. Mais sortir de sa zone de confort, je pense que c'est très, très, très formateur.
Moi, je sais que pour moi, c'est essentiel, en fait. On revient un peu à l'immobilité. Je pense que c'est des choses qui me permettent... alors, quand j'étais plus jeune, je me mettais vraiment dans des inconforts, des fois pas du tout agréables. Peut-être c'était trop d'un coup, justement. Et maintenant, je sais doser. Je sais doser l'espace d'inconfort que je peux m'octroyer où je suis quand même en sécurité, etc. L'espace d'inconfort que je vais accepter parce qu'il y a un projet ou il y a quelque chose qui m'attire et que je suis capable de vivre ça, de le surmonter, je sais pas comment, on verra. Et l'espace d'inconfort dans lequel je ne vais pas parce que je me mets en danger, même pas forcément physiquement, ou ça m'intéresse pas, ou tu vois, émotionnellement, je veux pas aller là, quoi. Mais... Oui, tu apprends beaucoup sur toi et je pense que tu apprends à... Tu t'ouvres aussi, tu vois. Un truc où tu décales certaines balises. Pas toutes, parce qu'il y en a, tu dis, ben non, là, ça, c'était bien comme ça. Ça n'a pas bougé. On verra plus tard.
C'est marrant parce que c'est la première fois qu'on retourne un truc contre moi dans ce
Ah, c'est
podcast. Enfin, contre moi. Qu'on me
vrai.
renvoie, qu'on me retend une question. Voilà, tu vois.
J'ai pas. C'est vrai que, enfin, je n'avais pas pensé avant à te poser la question, mais comme moi, c'est des questions qui me passionnent et qui m'intéressent. Quand je discute avec quelqu'un, souvent, je finis par demander d'où tu viens et t'as voyagé, t'es parti comment et qu'est-ce que ça t'a apporté. Enfin, je creuse un peu ces sujets-là. Et c'est vrai que j'ai pas écouté tous tes podcasts, pas encore. J'en ai téléchargé quelques-uns pour mon retour, qui n'en sera pas un.
Est-ce qu'il y a des lieux culturels que tu aurais envie de recommander?
Oui, il faut aller au Mucem.
J'y suis allée pour la première fois cet été et
Ah
c'était
ouais,
trop bien.
c'est un lieu incroyable. C'est un endroit où je me sens très 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 bien. Quand j'ai envie d'un peu de méditer, de me centrer, je recommanderais la Bonne Mère. Je sais pas si on peut considérer que c'est un lieu culturel dans ce sens-là. Pas, enfin, je pense qu'il faut rentrer dedans, c'est magnifique à l'intérieur, mais l'endroit où elle est construite. Justement, cette ouverture sur la Méditerranée, elle est très en hauteur. On voit toute la ville et on voit toute la mer. Je recommanderais le Centre culturel national, je sais pas si c'est dans ce sens-là, de Pigna, en Corse. Si vous passez par là-bas, ils ont une très très belle programmation. Ils sont centre national depuis quelques années. Ils ont des artistes en résidence. Moi, c'est là que j'ai fait ma première résidence de création pour mon spectacle. Et c'est un auditorium fabriqué, je sais plus exactement ce que c'est l'histoire, mais vraiment avec des matériaux à l'antique, un petit peu. Enfin, vous aurez tous les renseignements sur place, je sais plus exactement, mais allez là-bas. Ou si vous pouvez aller faire des projets là-bas, allez-y. Ils sont super et on y est bien autant en tant qu'artiste qu'en tant qu'auditeur, auditrice.
Eh bien, pour finir, qui est-ce que tu aimerais entendre à ce micro?
Ben moi, j'aimerais bien entendre Claire Chase. C'est une flûtiste américaine dont je connais pas très bien le parcours. C'est un peu, elle joue partout. Elle fait beaucoup de créations contemporaines et elle fait beaucoup de cours, notamment à New York. Elle est en ce moment en résidence au Lincoln Center et elle fait des cours pour les citoyens de New York, pas musiciens, quoi. Et c'est une excellente flûtiste qui fait des créations de concertos contemporains par-delà le monde, mais qui porte aussi ces projets-là plus locaux et que j'admire beaucoup. Donc si tu parles un peu anglais, elle parle peut-être français, je sais pas.
Merci beaucoup, Alban.
Merci infiniment. Clément, c'était trop bien.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Si celui-ci vous a plu, pensez à le partager, pensez à vous abonner et pensez à lui mettre 5 étoiles sur votre appli de podcast préféré. Quant à moi, je vous souhaite bon vent et à bientôt dans la carte et le territoire.
Secours.